autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, autour d'un plat de riz aujourd'hui pour remonter aux origines de cette céréale, non pas en Chine ou en Inde, mais à l'ouest de l'Afrique. C'est là, dans le delta du Niger, au nord du Mali, que des chercheurs de l'IRD viennent d'identifier l'origine géographique de la domestication du riz africain il y a 3000 ans. Comment le séquençage de plus de 246 génomes de riz africain permet-il d'écrire une autre histoire de nos sociétés humaines? Pourquoi le riz africain a-t-il été si longtemps négligé au profit des riz asiatiques? Et comment aujourd'hui peut-il nous inspirer? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le généticien Yves Vigourou, le génomicien François Sabot de l'IRD et la généticienne Marie-Noëlle John-Job d'Africa Rice. Autour de la question « Pourquoi s'intéresser au riz africain ?» Bienvenue et bon appétit.
Pardon, je veux du riz.
J'ai du bon riz de Bakri. Le meilleur. Udurba Plus.
Hey.
Sûr.
Ok, je prends. Mais il est bon.
Je te le fais pas dire. Vous aussi, faites comme nous. Choisissons le riz Udurba Plus de Bakri. C'est un riz facile à préparer, très nourrissant. Il n'a pas de cailloux. Et en plus, il est tellement délicieux.
Ça donne envie. Bonjour Yves Vigourou.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous pour partager ce bon riz africain, ou plus exactement les recherches que vous menez, Yves, à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, sur cette céréale, base de l'alimentation de près de la moitié de la population mondiale. Vous êtes généticien, Yves Vigourou, et avec votre équipe, vous venez d'identifier le berceau de la domestication du riz africain au Mali. Il y a 3000 ans, vous aviez déjà, grâce au séquençage génomique, montré que le riz sauvage cette fois poussait déjà en Afrique il y a plus de 10 000 ans. Ce qui peut sembler étonnant tout de même, car a priori, quand on pense au riz, on pense d'abord à l'Asie.
Donc il y a deux formes de riz majeures. Une forme asiatique, c'est celle que vous avez un petit peu chacun dans vos placards. Et il y a aussi une forme, une plante cultivée qui a été domestiquée en Afrique. Et c'est l'histoire de cette céréale-là, celle du riz africain, que l'on retrace dans nos études.
Alors ce riz africain, qu'est-ce qu'il a comme différence ou qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport au riz asiatique ?
Il s'agit de domestication, donc de modification d'une plante sauvage. Et c'est deux plantes sauvages complètement différentes qui ont donné les deux
riz. À la base, donc la plante sauvage asiatique et la plante sauvage africaine ne sont pas les mêmes.
Deux espèces différentes qui ont divergé il y a très 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 longtemps, presque un demi à un million d'années. Par contre, la domestication, c'est-à-dire la modification pour rendre cette forme sauvage cultivable, s'est produisent indépendamment en Asie et s'est produisent aussi en Afrique.
À peu près, pas tout à fait à la même époque. Elle s'est produite plus tôt en Afrique, on l'a domestiquée plus tôt.
En Asie, on estime que c'est autour de 10 000 ans, entre 9 et 10 000 ans. Et sur la partie africaine, on est plutôt autour de 3 000 ans.
Bonjour François Sabot.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Vous êtes génomicien à l'IRD. Vos recherches portent sur la structure évolutive du génome des plantes en général et du riz en particulier. Vous avez analysé pour cette étude plus de 240 génomes de riz africain pour identifier le berceau de sa domestication au Mali. On a besoin d'autant de génomes que ça?
Alors d'abord, juste une précision, je n'étais pas tout seul, on était plusieurs à analyser.
Évidemment.
Évidemment. En fait, l'avantage d'avoir toutes ces données-là, tous ces génomes, c'est que ça permet d'éviter de regarder que quelques individus qui pourraient pas représenter l'histoire complète de l'espèce. Cette espèce est peu diverse, donc on a besoin que de 250 génomes, mais c'est vraiment utile d'avoir toutes ces données-là parce que ça permet de passer outre pas mal d'erreurs qu'on pourrait faire simplement en choisissant mal nos échantillons. Et en fait, nos individus représentent bien toute l'espèce pour permettre de bien retracer son histoire.
Son histoire, vous l'avez dit, vous n'avez pas été tout seul pour la retracer. Vous avez notamment, toutes ces données avaient été collectées par vos collègues généticiens, généticiennes d'Africa Rice, du Centre du Riz pour l'Afrique, avec qui vous collaborez étroitement, on va y venir. Mais il s'agit c'est aussi de croiser, Yves Gourou, toutes ces données génétiques avec quoi ? Des données historiques, archéologiques, pour comprendre exactement quand et comment ce riz sauvage a été domestiqué en Afrique ?
Donc on a, au travers de ces génomes, une première information. Mais on a aussi d'autres informations, notamment archéologiques, qui nous permettent aussi de contextualiser nos recherches en termes de génétique et de génomique. Donc, on croise nos données génétiques avec ces données archéologiques pour mieux comprendre l'histoire de ce riz-là.
L'histoire et aussi la géographie, j'ai envie de dire, parce que le riz sauvage qui existait sur tout le continent africain et notamment dans cette partie de l'Afrique a été domestiqué à un moment pour une raison particulière.
Donc, au travers de l'étude de ces génomes, on a l'empreinte de l'histoire et des événements passés qui sont imprimés dans
Ils sont inscrits dans les génomes des plantes, dans l'ADN des plantes.
Mais dans notre génome aussi, notre génome humain, mais aussi dans le génome des plantes. Et donc, en étudiant cette diversité avec ces 240 génomes, et bien on peut commencer à retracer cette histoire. Et un des résultats un petit peu surprenants qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé qu'à partir d'à peu près 10 000 ans, les formes sauvages ont commencé à décliner en Afrique, à présenter des populations de plus en plus petites. Et on met en relation ce déclin des formes sauvages avec l'assèchement du Sahara, qui a commencé autour de 9 000 ans.
Donc c'est-à-dire qu'au fond, quand le Sahara était vert, hein, pour le dire très grossièrement, il y avait beaucoup de plantes sauvages, et petit à petit, le Sahara devenant de moins en moins vert, les hommes quoi, se sont mis à devoir inventer l'agriculture, pour le dire un peu avec des gros sabots.
L'hypothèse, c'est sans doute que oui, il y a dû y avoir un changement dans l'utilisation des plantes. On utilisait des plantes il y a 9000 ans dans le Sahara, et avec sans doute la raréfaction des ressources, parce que le Sahara, c'était un réseau de lacs, c'était des animaux aussi, c'est des poissons. On a eu des ressources qui ont commencé à disparaître. Et sans doute que ça a été un déclencheur vers un changement sociétal qui a été l'adoption de l'agriculture, et son corollaire, c'est la domestication des plantes.
Et la domestication du riz en particulier, ce riz domestiqué, il a aussi une particularité par rapport à son cousin asiatique, c'est qu'il n'est pas obligé de pousser les pieds dans l'eau.
Donc en Afrique, la culture du riz est principalement une agriculture pluviale.
Pluviale, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire comme le blé chez nous en France, ou comme le maïs ailleurs, c'est-à-dire sans les pieds dans l'eau, juste avec la pluie qui tombe. 85% à peu près de la surface est plutôt une agriculture sous pluie, pluviale.
Donc ce riz-là n'a pas besoin de rizière, quoi, en gros ?
Ce riz-là n'a pas besoin de rizière. Le riz asiatique est cultivé, c'est plutôt une condition agronomique pour le rendement, de faire des rizières et faire des aménagements. Maintenant, la forme sauvage, elle est aussi un petit peu inféodée à des mares dans la zone du Sahel aujourd'hui. Donc, il peut pousser les pieds dans l'eau. Mais son agriculture aujourd'hui, l'agriculture du riz en Afrique est principalement une agriculture que l'on dit pluviale, c'est-à-dire qui a juste la pluie qui tombe, qui permet à la plante de pousser.
Puis c'est intéressant du coup pour notre temps et nos changements climatiques à venir, on va y venir justement autour de la question: pourquoi s'intéresser au riz africain ? Quel est d'abord l'impact de vos recherches et de vos découvertes pour et sur le continent ? Il y a beaucoup de questions d'auditeurs à ce sujet. Je propose d'abord d'écouter la généticienne Marie-Noëlle John-Jop, avec qui vous avez collaboré, hein, François Sabot, pour cette étude. Elle dirige l'unité des ressources génétiques d'Africa Rice à Abidjan, au Côte d'Ivoire, où nous l'avons joint hier par téléphone.
Cette étude est vraiment importante pour l'Afrique dans la mesure où la déture nous a permis de connaître vraiment le centre de domestication du riz et nous a également permis de comprendre l'histoire de la culture du riz en Afrique.
Vous avez vous-même, Marie-Noëlle John-Jop, participé aux recherches pour caractériser la collection de riz africain. Comment est-ce que vous avez travaillé ?
L'idée était en fait d'étudier la diversité génétique du riz africain, et ensuite de créer un mini-corps une collection représentative de cette diversité génétique. Mais comme cette collection est difficilement manipulable ou gérable par le sélectionneur au niveau du champ, parce que l'objectif, c'est de conserver les accessions de riz, mais aussi notre objectif, c'est d'en faire sa promotion en vue de son utilisation par des sélectionneurs. Et dans notre stratégie pour faire cette promotion, notre stratégie a été vraiment d'étudier cette collection de riz sur le plan moléculaire et de créer un jeu de 350 accessions parce que nous avons estimé que cette taille de matériel génétique est facilement gérable au niveau du champ. Mais on s'est assuré que cette mini-corps de 350 accessions représente vraiment la variabilité moléculaire et génétique présente dans la collection de base du riz africain. Donc c'est ce travail qui a été effectué. Ces semences sont disponibles et nous allons les distribuer à tous les partenaires qui en auront besoin dans leurs études génétiques.
Donc vous avez vraiment servi, si j'ose dire, d'intermédiaire finalement entre le laboratoire et le champ.
Voilà, notre rôle, c'est vraiment de mettre à la disposition des sélectionneurs ou des paysans des variétés, des semences de qualité qu'ils puissent vraiment utiliser dans leur programme d'identification des gènes, de création de nouvelles variétés qui soient utilisées par les paysans plus tard.
Du laboratoire jusqu'au champ, vous voulez réagir, François Sabot, au propos de Marie-Noëlle John-Job, avec qui vous avez beaucoup travaillé, je crois.
Oui, effectivement, on a beaucoup travaillé avec l'équipe de ressources génétiques et Marie-Noëlle. Ça a été un travail assez long, parce qu'en fait, la collection initiale faisait 2000 plantes. C'était compliqué de choisir dans ces 2000 plantes, donc il y a eu beaucoup de réflexions communes. On a beaucoup travaillé avec Africa Rice pour sélectionner les 350 individus de la collection initiale.
Et comment expliquer d'ailleurs, François Sabot ou Yves Vigouroux, la diversité, une telle diversité de plantes, enfin de riz africains? Est-ce qu'on explique
c'est
ça?
Pas énorme.
Ah, c'est pas énorme.
Non, en fait, on a 2000 lignées de riz africains qui sont identifiées au niveau du riz asiatique, donc le riz classique, on va dire. Actuellement, l'IRI, le Centre international de recherche sur le riz, a plus de 140 000 accessions de répertoriés.
Ah oui, donc c'est pas énorme. Mais le riz africain, il est distribué surtout, le riz sauvage était distribué sur tout le continent africain,
Yves? Donc, oui, enfin, on trouve le riz sauvage sur à peu près presque tout le continent africain. Donc ça, c'est l'espèce ancêtre. La forme cultivée du riz africain est quand même majoritairement trouvée sur toute l'Afrique de l'Ouest, du Mali à la Guinée jusqu'au Tchad. On trouve un petit peu quelques échantillons en Afrique de l'Est, mais la grande partie de sa culture est plutôt ouest-africaine.
Vous avez aussi mis en évidence, je crois, que ce riz africain était très cultivé il y a plus de 2000 ans. Et puis, d'un seul coup, c'est quoi? Au XVIe siècle, c'est le déclin. C'est-à-dire que dans les gènes, on lit toute notre histoire et on lit aussi l'histoire de la colonisation.
Donc, au travers de cette étude de la diversité, on a l'empreinte de cette histoire. Et donc, en lisant ce code génétique, nous, on peut retracer effectivement l'histoire récente, l'histoire passée. Et donc, on trouve qu'à partir de 2000 ans, il y a une expansion relativement incroyable de la culture du riz en Afrique. Et ensuite, à peu près il y a 500 ans, on commence à observer de manière relativement surprenante un déclin de cette culture.
Tout
du
ça
riz.
Dans le gène de la plante. Hein,
au travers du génome de la plante, on retrouve une décroissance de sa culture. Presque les surfaces ont été presque divisées par deux, si on se réfère à la génétique.
Il y a 500 ans d'un seul coup, quoi, pratiquement.
Progressivement, hein. À partir de 500 ans. Ça initie à partir de 500 ans et ça s'accélère les 200 dernières années. On interprète cette décroissance par l'arrivée du riz asiatique en Afrique. Qui a remplacé dans certaines zones la culture plus traditionnelle du riz africain.
Et pourquoi? Parce que le riz asiatique, hein, c'est celui, je rappelle, qu'on mange tous le plus souvent. Il a quoi? Il est plus facile à cultiver, il a un meilleur rendement. C'est quoi ça? C'est par rapport à ce riz africain, apparemment très robuste, résistant à la sécheresse, pouvant pousser de manière pluviale. François Sabot.
Fort, en fait. Pardon. Oui, en fait, il a un rendement bien supérieur, qui est de 2 à 3 fois supérieur au riz africain. Même s'il est plus sensible, il a quand même un rendement bien supérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, probablement, les paysans l'ont adopté assez rapidement. Même s'il y a peut-être eu une poussée de la part des colonisateurs, ils l'ont adopté surtout pour le rendement, en fait.
C'est ça, parce que quand on parle de riz asiatique et de riz africain, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'il y a du riz asiatique qui pousse en Afrique, il y aura peut-être un jour du riz africain qui poussera en Asie, ça on ne sait pas, mais avec le changement climatique tout est possible, mais voilà, il s'agit vraiment d'une origine.
Il s'agit vraiment d'une origine, c'est-à-dire où a eu lieu les premières étapes de sa culture, de son agriculture, et donc il y a vraiment deux formes et deux espèces cultivées très différentes entre riz africain et riz asiatique.
Autour de la question pourquoi s'intéresser au riz africain et au berceau de sa domestication au Mali, réponse musicale d'Ousko sur RFI, consommé national. Le reggae malien engagé d'Ousko sur RFI autour de la question du riz africain et pourquoi il faut consommer local. Aujourd'hui, les gouvernements encouragent aussi, comme Ousko, à consommer local, notamment après plusieurs scandales de riz importé. En tout cas, la consommation de riz local africain est boostée aujourd'hui, notamment au Burkina Faso, où de nombreux points de vente de ce riz pluvial ont vu le jour avec un certain succès. Je propose d'écouter le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani, dans la boutique de Martial Dipama, qui reconditionne le riz produit au Burkina Faso.
Martial Dipama, le gérant de la boutique du projet Riz Pluvial, reconditionne le riz produit dans les bas-fonds rizicoles au Burkina Faso. Le riz padi acheté Borchan est décortiqué dans des usines à Ouagadougou et est remis sur le marché. C'est ici, dans cette boutique, que de nombreuses familles s'approvisionnent. Dans la famille Kéré, c'est le riz local qui est servi depuis plusieurs mois. Madame Kéré de Virginie Ilboudo.
On a consommé dans le temps du riz de Bagré, après du riz de Vergawa. Mais en ce moment, on consomme du riz de la vallée du coup.
Pour cuisiner le riz local, il faut beaucoup de patience car il doit être débarrassé de toute impureté. Jocelyne Kéré.
Il faut d'abord trier le riz puisqu'il y a des cailloux et puis il y a le riz qui n'est pas bien pilé, la peau n'est pas bien enlevée. On met l'eau à bouillir et puis on le lave trois fois comme cela. Et puis quand l'eau bout, on met le riz. On couvre et puis on surveille la cuisson.
Après une vingtaine de minutes sur la cuisinière, le riz est servi et les membres de la famille passent à table.
Oui, c'est très bon. Et puis surtout avec cette sauce de pâte d'arachide là, ça passe bien. Le riz importé là, je trouve que c'est un peu sec. Parce que ce riz là, même si on a préparé genre le matin, le soir quand tu viens pour arriver pour manger, tu sens que c'est toujours bien quoi.
Plusieurs raisons ont poussé cette famille, comme bien d'autres, à opter pour le riz produit sur place au Burkina Faso, Jocelyne Kéré.
En termes de qualité, je trouve qu'il a meilleur goût et
même la texture, il y a beaucoup plus d'amidon. C'est pas comme les autres riz où il n'y a pas assez d'amidon là. Le riz colle. On sent vraiment qu'il est très nutritif. Ça, c'est sûr.
Qui veut réagir à cet alléchant reportage de Yaya Boudani à Ouaga, au Burkina Faso? Yves Gourou, vous l'avez goûté, ce riz africain?
Je l'ai goûté dans mes séjours, notamment au Niger, un petit peu. Bon, et voilà, il y a des goûts différents, c'est sûr. Maintenant, effectivement, je dirais aussi, notre palais peut-être européen est habitué aussi au riz asiatique depuis longtemps. Donc voilà, c'est un goût différent.
Le palais en Afrique est habitué aussi au riz asiatique, qui est quand même le plus consommé aujourd'hui partout dans le monde. Nos auditeurs à Cotonou, au Bénin, nous demandent justement, outre le Mali, le Burkina, quels sont les autres pays producteurs de riz en Afrique, de riz africain.
De riz africain ?
Oui.
Et il y en a au Bénin. Vous trouvez au Bénin, il y a des gens qui cultivent du riz africain et qui en vendent d'ailleurs, régulièrement sur les marchés. Vous en avez au Burkina, vous en avez donc au Mali, au Sénégal un petit peu aussi.
Et pourquoi ce riz africain fait-il partie, on a l'impression quand même, heureusement que vous y êtes collé, de ces plantes négligées ou de ces plantes peu étudiées? François Sabot.
En fait, il y a un problème. Ouais, il y a un petit problème technique en fait sur le riz africain. La dame nous parlait de cailloux encore dans les sacs. Il faut savoir que le riz africain a une qualité technique. On appelle ça une qualité technique. Quand on prend les grains qui sont encore accrochés à la plante, qu'on égrène et qu'on met dans les machines pour obtenir le riz blanc que vous consommez classiquement, il y a tout un système de traitement. Et en fait, souvent, le riz africain, il est cassant. Et on obtient des brisures de riz. Et ça, c'est pas une très bonne qualité technique. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver moins aussi. Et c'est pour ça que les gens le consomment moins, en fait.
Parce que ce sont plutôt des brisures de riz par rapport au riz asiatique.
Et il est plus difficile à consommer, il est un peu plus lourd à digérer, en fait.
Il est quand même temps de s'y réintéresser, puisque parmi ses qualités, il y a quand même la robustesse, l'adaptation, l'adaptabilité, en tout cas, à des conditions de sécheresse ou de variations climatiques, François Sabot.
Effectivement, le riz africain est connu pour résister à plein de choses. Si on écoute certains chercheurs, on va dire qu'il résiste à tout. Mais en fait, il est connu surtout pour résister à la toxicité ferreuse, donc à des sols riches en fer, à des sols peu irrigués, ou à des champs qu'on ne peut pas forcément bien entretenir et qui ont beaucoup de plantes envahissantes. Après, actuellement, il y a des études qui sont portées sur ce riz-là, justement du fait de sa difficile digestibilité, on va dire, enfin relative, parce qu'en fait, c'est un riz qui, pour les diabétiques, pourrait être intéressant, vu qu'il va relarguer tout doucement ses sucres, en fait.
Il y a donc des particularités, enfin il est particulièrement intéressant, d'où l'intérêt aussi de travailler génétiquement notamment, Yves Gourou, sur ce riz africain, comme sur d'autres plantes, d'autres céréales un peu négligées. Je crois que vous travaillez aussi sur le mil, l'igname, le fonio, le sorgho.
Donc actuellement, il y a un gros programme d'études sur l'ensemble de ces plantes un peu négligé en Afrique, et donc le riz africain en fait partie. Effectivement, le fonio, très cultivé en Guinée notamment, et au Mali. L'igname, qui est une racine et tubercule qu'on trouve plutôt dans la zone côtière. Ça c'est des plantes sur lesquelles on travaille pour comprendre effectivement quel est l'impact de l'histoire de cette agriculture sur leur diversité. Et comment cette diversité va potentiellement nous permettre de faire l'agriculture de demain et l'adaptation aux variations du climat futur.
Oui, parce qu'il faut garder la diversité, ça c'est une évidence aussi. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent devant l'évolution démographique de l'Afrique. Un de nos auditeurs à Abidjan nous demande, est-ce que l'Afrique pourra un jour reproduire pour s'auto-alimenter? Je ne sais pas si c'est un généticien de répondre, mais en tout cas vous y travaillez.
Donc un des grands défis de l'Afrique va être l'alimentation future. Hein. On va passer de 1 à 2 milliards d'habitants. Effectivement, l'Afrique a des atouts Et un de ses atouts, c'est ces plantes adaptées à des zones sèches. Mais aujourd'hui encore, ces plantes ont un rendement relativement faible. Donc il y a encore des progrès à faire dans la valorisation et l'utilisation de ces plantes pour que les rendements augmentent. Un des grands défis aussi, c'est la baisse des surfaces cultivables et une demande aussi qui se tourne vers les villes. Mais quand cette demande se tourne vers les villes, il y a aussi des changements. On consomme aussi beaucoup de riz et du riz asiatique en ville.
On consomme de plus en plus de riz, mais de plus en plus de riz asiatique, en fait.
De plus en plus de riz asiatique.
C'est là qu'il faudrait peut-être pouvoir inverser la tendance. Alors, du changement climatique, en tout cas, on continue de s'interroger sur le riz africain avec Taras Boulba sur RFI. Merci pour le tiep. Merci pour le tiep et l'afrobeat, Taras Boulba sur RFI, autour de la question du riz africain, en compagnie des généticiens et génomiciens Yves Gourou et François Sabot de l'IRD, qui ont séquencé plus de 200 génomes de riz africain et identifié le berceau de sa domestication au Mali, en Afrique de l'Ouest. Alors le tiep, plat national sénégalais, est-il meilleur avec du riz africain ou avec du riz asiatique? Et si la solution pour que l'Afrique devienne autosuffisante en riz se situait entre les deux? La question est ouverte avec le développement des semences améliorées, notamment du riz Nerica, croisement entre le riz asiatique pour son rendement et le riz africain pour sa résistance. 10 ans après le lancement du riz Nerica, où en est-on? Olivier Roger faisait le point dans ce reportage diffusé sur RFI le 13 mars dernier. Le riz Nerica, mythe ou réalité? Réponse en demi-teinte du professeur Jeanne Zunjik et Pont, enseignante en génétique à l'université d'Abomey-Calavi, à Cotonou, au Bénin, et directrice de l'ONG Grain.
C'est vrai, en station, paraît-il que le rendement est meilleur, la productivité est meilleure en station, mais dans les champs des producteurs, tel n'a pas été le cas. Je connais pas mal de producteurs qui ont abandonné le riz Nerica.
Pourquoi les riziculteurs renoncent-ils? D'abord parce qu'ils ne sont pas habitués à devoir acheter leurs semences de riz. Patricio Mendes del Villar, spécialiste du riz au CIRAD, le centre de recherche français en agronomie.
Le problème, c'est la multiplication, c'est-à-dire que les producteurs achetaient une première année de la semence et ensuite ils la multipliaient eux-mêmes. Donc ce qui posait des problèmes sur les conditions de multiplication, sur la pureté variétale, ça pouvait remettre en question les rendements.
Au fil des ans, s'est ouverte une querelle des modernes et des anciens. Pour cultiver les riz améliorés, mieux vaut avoir une grande exploitation, pense Marie-Jeanne Zunjiekpon.
Le petit paysan, il a l'habitude de cultiver son riz traditionnel depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires. C'est le riz de l'agriculture familiale, tandis que le Nerica est un hybride. Et l'hybride L'hybride est porté par l'agriculture industrielle. Et l'agriculture industrielle, bon ben, c'est l'agro-business. Et c'est les grandes superficies.
Le Nerica n'a sans doute pas permis l'autosuffisance à laquelle certains rêvaient, mais sans lui, le volume de riz produit par l'Afrique serait bien plus faible. Pour l'instant, l'Afrique couvre 55 à 60% de ses besoins. Le reste est importé.
Avant de vous laisser commenter ce reportage, Yves Gourou et François Sabot, je propose d'abord d'écouter la réaction depuis Abidjan de votre collègue Marie-Noël John-Job, qui dirige l'unité des ressources génétiques d'Africa Rice en Côte d'Ivoire et qui a notamment participé à ce riz Nerica.
Oui, ce que je voulais apporter comme clarification, c'est que le riz Nerica est issu vraiment, ce sont des variétés interspécifiques, issues du croisement entre les deux espèces de riz qui sont cultivées en Afrique. C'est un croisement naturel, madame, tel que ça se produit dans le champ du paysan. Mmh. Donc, simplement, on a essayé de valoriser les potentialités de ce riz africain et aussi utiliser les spécificités du riz asiatique. Dans ce riz Nerica, on retrouve ces deux caractéristiques, qualités-là. On a combiné le haut potentiel de rendement du riz asiatique avec l'adaptabilité de Glaberima aux conditions locales. Voilà l'intérêt d'Enerica. Donc c'est vraiment un croisement naturel, sauf que ce sélectionneur a pu le faire en laboratoire. C'est un croisement tel que ça se produit dans le champ du paysan. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'artificiel. C'est d'abord le premier point que je veux soulever. Ensuite, près de 80% de la production de rizicole en Afrique est assurée par des petits producteurs à faire de roublemi. Je suis d'accord. Mais comme la plupart des cultures, le riz aussi en Afrique subsaharienne évolue dans des systèmes agricoles à faible intrant. Donc, les chances d'améliorer les rendements de façon substantielle dans ces conditions sont très limitées. La seule façon d'y remédier, c'est de disposer des variétés adaptées aux conditions environnementales de l'Afrique subsaharienne, donc faibles, qui sont la faible fertilité des sols, les fréquences stress biotique et abiotique et des pratiques culturelles qui sont restées traditionnelles. Donc, Nerica répond à ces problématiques-là. Les semences sont disponibles. Africa Rice travaille à développer cette variété, a mis en place des semences et le pays assure le relais au niveau de la production des semences. Et donc, on y est parvenu et aujourd'hui, madame, il y a un boom au niveau de la productivité du riz en Afrique grâce au Nerica. C'est une étude qui a été effectuée par l'USAID et qui nous a révélé qu'il y a un boom au niveau du rendement en riz en Afrique subsaharienne et c'est l'un des facteurs, c'est vraiment la culture des Nerica. Voilà ce que je peux dire. Je pense que vraiment c'était une très belle évolution scientifique que de développer ces Nerica-là. En fait, croiser deux espèces de riz, ce n'est pas facile, mais ce chercheur d'Africa Rice, Adrao à l'époque, a réussi à faire ce croisement et à obtenir des graines, des semences fertiles.
Ce qui veut dire aussi que vous continuez aussi des recherches pour d'autres types de riz Nerica, c'est ça?
Voilà, c'est un axe de recherche que nous développons ici, madame. C'est justement pour ça que j'ai effectué ce travail sur les riz africains, parce que les sélectionneurs du Centre du riz pour l'Afrique utilisent ce riz africain comme ressource génétique dans leur programme de création et d'amélioration variétale. Et vraiment, là, leur stratégie est de faire des croisements entre les deux riz africains et faire des croisements Glaberima sativa ou sativa sativa afin de répondre aux problématiques que rencontre le paysan dans son champ.
François Sabot, vous voulez réagir ou compléter les propos de Marie-Noël John-Job qui défend évidemment ce riz Nerica, mais ce riz Nerica pose tout de même des questions.
Alors effectivement, le riz Nerica, du point de vue méthodologique, ça a été une très grande réussite de Monty Jones au début des années 2000. Il faut signaler que c'est quand même le World Food Awards des années 2004, donc c'était vraiment un très grand avancée agronomique. Après, peut-être qu'il y a eu Africa Rice a réellement poussé à ce que le Nerica soit utilisé, et je pense que dans certains pays, ça a été assez mal perçu. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de réticence à utiliser Nerica. Après moi, en ayant été dans les champs, en Afrique, etc., Nerica est vraiment très très utilisée. Énormément de gens utilisent Nerica.
Parce que c'est il combine à la fois le rendement du riz asiatique et la robustesse du riz africain, c'est ça ?
Alors, il n'est pas complètement aussi productif que les meilleurs productifs asiatiques, mais il est beaucoup plus résistant. Et il n'est pas aussi résistant qu'un véritable riz africain, mais il est beaucoup, beaucoup plus productif. Et c'est un riz qui vraiment a des avantages impressionnants. Je me souviens d'une fois où on s'était retrouvé dans une rizière de test où il y avait énormément de variétés différentes d'Africa Rice. Et, il avait fait très, très sec sur le mois d'avant. Et les seules variétés qui résistaient à peu près, c'était les variétés Nerica. Donc c'est vraiment un riz qui est intéressant à ce niveau-là. Après, peut-être qu'il y a eu beaucoup de forcing et les gens étant ce qu'ils sont, dès qu'on va changer les conditions, ça va pas forcément plaire. Peut-être que les Nerica sont pas forcément adaptés partout dans toutes les conditions. Donc comme disait Marie-Noël, il y a encore du travail qui est pour créer de nouveaux Nerica. Et entre autres à partir des données qu'on a sorties.
Yves Gourou, vous êtes d'accord ? Il faut, à part ces données que vous avez soutenues, concevoir d'autres riz, quand même génétiquement modifiés.
Donc là, il s'agit de croisements naturels. On n'est pas, il n'y a pas de recherche actuellement à l'IRD, et je pense qu'Africa Rice sur des riz génétiquement modifiés. Pour l'Afrique, mais l'important ici, c'est que effectivement, le riz africain vient d'une espèce qui poussait aux franges du Sahara. Donc, elle a des adaptations qui peuvent être quand même importantes pour le climat qui se réchauffe, les effets de température beaucoup plus importants. On parle beaucoup de la sécheresse, mais on doit aussi parler de la température très élevée qui empêche la reproduction des plantes. Donc un des défis futurs, ça va être d'augmenter la production en Afrique pour nourrir une population en croissance dans des conditions climatiques qui vont être plus difficiles. Et je pense que ces variétés de riz africain ont un rôle à jouer, peut-être en mariant les deux riz, le riz d'Afrique et le riz d'Asie, pour son rendement, pour sa résistance. Ça permet aussi de maintenir cette diversité en l'utilisant.
Justement, oui, c'est ça la question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la question qui se pose, on le sait très bien, c'est la question de la diversité. C'est comment maintenir finalement une telle diversité d'espèces pour que, pour éviter les cultures intensives. On a quand même fait beaucoup, beaucoup de dégâts ces dernières années, un peu partout dans le monde, en agriculture.
Donc, quand on regarde l'Afrique, il y a encore une agriculture qui est principalement de petits agriculteurs, qui conserve énormément sa diversité. On est vraiment très très différent des agricultures européennes. On a encore beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui ressèment leurs semences, donc qui sélectionnent, améliorent localement leurs variétés, et donc ils sont toujours en train de les sélectionner pour une évolution de l'environnement qui arrive localement.
Ce que vous dites, c'est qu'au fond, vous en tant que chercheur, vous le faites en laboratoire et beaucoup plus rapidement, mais au fond la même chose que font les paysans dans leurs champs. C'est un peu à un autre niveau, au niveau moléculaire, mais c'est ça, c'est ce que disait aussi Marie-Noël, c'est un peu...
On essaie de comprendre comment se fait cette adaptation des plantes au niveau moléculaire. De manière très très pratique, les agriculteurs dans les champs adaptent leurs variétés aux conditions environnementales, aux maladies qui arrivent et essaient d'innover pour que leurs variétés se maintiennent. Leur production, c'est leur nourriture aussi. Oui, ils sont des sélectionneurs locaux de cette diversité.
Et en même temps, l'histoire de ces plantes, l'histoire du riz, on l'a vu, c'est parfois l'histoire de la colonisation, c'est aussi l'histoire aujourd'hui de notre mondialisation.
C'est l'histoire de la mondialisation. Pour le riz, elle a commencé avec les grands échanges mondiaux. Le manioc est arrivé en Afrique en venant d'Amérique. Le maïs est arrivé en Afrique en venant d'Amérique. Le riz asiatique est aussi a connu une expansion en Afrique. Donc oui, tous ces mouvements de mondialisation, on le retrouve aussi dans l'agriculture et dans les plantes qui sont cultivées aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest.
Autour de la question pourquoi s'intéresser au riz en Afrique de l'Ouest, pour avoir le ventre plein, on écoute les Gladiators sur RFI, Belle et Foule.
No water said to hold it. The fire red hot. No water said to hold it. It's going to be a bangarang. It's going to be a bangarang. In this heart,
I'm part to race. It's gonna be a big race. Some going too fast when someone go. Someone go. So in the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see what he got done. Then everyone will see what he hero. For when the rice was fed, my belly not go full. And when belly not full, I yes, I got go dead. It a go be a bangarang.
It's gonna be a bangarang.
In this heart, I'm part to race.
It's gonna be a big race.
Some going too fast when someone go.
Someone go.
So in the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see what he got done. Then everyone will see what he hero. For when the rice on swell, man belly not go full. And when belly not full, I yes it a go dead.
Belle et foule, le ventre plein sur RFI avec The Gladiators. Nous continuons de nous interroger sur le riz africain en votre compagnie, Yves Gourou et François Sabot. Et avec une nouvelle question pour vous, soulevée par Cécile Lestienne du mensuel Pour la Science.
Je voulais savoir si le riz africain avait des propriétés particulières qui feraient qu'il supporterait peut-être mieux la sécheresse et dans ces temps de changement climatique. Est-ce que ça serait intéressant de redévelopper le riz africain versus le riz asiatique qui domine le marché mondial ?
On a commencé à y répondre, mais on peut prolonger. C'est-à-dire qu'on se demande si finalement ce riz africain robuste, alors plus compliqué, on l'a bien compris industriellement, et parfois à digérer, ne pourrait pas finalement être planté ailleurs que sur le continent africain, vu le changement climatique. Yves Gourou.
Alors, il est actuellement planté ailleurs que sur le continent africain.
Où ça ?
Puisque en fait, il est arrivé en Guyane, au Suriname, avec l'esclavage. Mais en fait, sa production principale reste en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, il a une adaptation très particulière aux zones sèches, aux sols pauvres. Et notamment, ben voilà, c'est une plante qui, dont la forme sauvage pousse aux franges du Sahara.
La forme sauvage pousse toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que ces plantes qui sont cultivées, domestiquées, elles existent toujours à l'état sauvage. Vous pouvez les étudier à l'état sauvage.
Ils existent. Ces plantes existent toujours à l'état sauvage. On en voit autour du lac Tchad, dans les mares du Nord Niger. Donc on en trouve, oui, encore à l'état sauvage.
Il est consommable. C'est quoi la différence entre un riz à l'état sauvage, un riz africain en l'occurrence, et un riz domestiqué ?
Donc il y a un certain nombre de caractéristiques, mais une des caractéristiques majeures associées à la domestication des plantes, c'est que les grains restent attachés à l'épi. Ça c'est la plupart des plantes qui ont été domestiquées ont été sélectionnées il y a très longtemps pour que les grains restent plus facilement attachés à l'épi, pour que ce soit plus facilement récoltable. Donc c'est vraiment un trait marqué des débuts de l'agriculture. Et donc, on trouve ce caractère sur l'ensemble des plantes, que ce soit le riz asiatique, le maïs au Mexique, il y a plus de 7000 ans, 10 000 ans, entre 9 et 10 000 ans pour le riz en Asie, et on pense autour de 3000 ans pour le riz en Afrique.
François Sabot, vous qui travaillez sur ce riz africain et sur d'autres espèces aussi, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait voir effectivement ce riz africain sur d'autres continents que sur le continent africain ?
Alors, comme le disait Yves, effectivement, on le trouve en Amérique du Sud, en Guyane, en Suriname et en petite quantité. Après, il est très très bien adapté effectivement à la zone sahélienne, subsahélienne. En Asie, ça risque d'être plus problématique pour différentes raisons. Bon, c'est déjà le berceau du riz asiatique, mais en plus, il a quand même un petit défaut, le riz africain, c'est qu'il est extrêmement sensible à un pathogène, un champignon, qui est très très présent en Asie, et qui est très peu présent en fait, qui était très peu présent jusque dans les 20 dernières années en Afrique. Et le fait de l'emmener là-bas pour le planter tel quel risque de détruire les cultures directement. Donc, il est intéressant. Mais je pense qu'il sera intéressant surtout en apportant ses particularités au riz asiatique.
comprendre le passé hein, pour améliorer l'agriculture du futur, c'est vraiment votre... c'est là-dessus que vous travaillez. Quelles sont vos recherches, justement, aujourd'hui, François Sabot-Juc ? Sur quoi et sur quel plan travaillez-vous ? Toujours sur ce riz africain ?
Oui, on travaille toujours sur le riz africain. Là, actuellement, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est... Au-delà de l'adaptation de ce qu'on connaît généralement sur les gènes des riz classiques, est-ce qu'il y aurait des nouveaux gènes qui seraient apparus au cours de l'adaptation, au cours de la domestication ? Est-ce qu'il y a des gènes qui ont été perdus, qui ne seraient plus présents que dans les sauvages ? Et comment en fait évolue, en fonction de l'environnement, vraiment la structure des génomes ? Donc on travaille sur ça, sur les riz africains, parce que c'est un très bon modèle, c'est une espèce qui n'est pas trop variable. Et surtout, c'est une espèce qui ne s'est pas complètement croisée avec son sauvage. Il faut savoir que le riz asiatique, avec son ancêtre sauvage, c'est beaucoup plus mélangé, donc c'est difficile de les séparer. C'est plus compliqué, dirons-nous.
Mais on ne sait pas si on a affaire à un riz sauvage ou à un riz domestiqué.
C'est-à-dire que le riz sauvage a beaucoup de riz domestiqué dedans, oui. Après 10 000 ans de co-culture, c'était un peu compliqué. Alors qu'en Afrique, le modèle est vraiment très propre et très intéressant à travailler. Et on travaille sur ça, sur le riz asiatique. On commence aussi à regarder du côté du mil, où il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Parce que tous nos travaux, en fait, impliquent énormément de données, de séquences de génome, de gènes, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et comment une plante, au cours du temps, peut s'adapter via l'apparition de nouvelles séquences, de nouveaux gènes qui vont être sélectionnés parce qu'elles apportent une résistance, une meilleure adaptabilité de la plante, en fait, à son environnement.
Merci beaucoup François Sabot, merci Yves Gouraud, une phrase de conclusion peut-être sur ce riz africain que vous nous faites découvrir à travers vos recherches.
Au travers de l'histoire du riz, on est en train de retracer l'histoire des hommes.
C'est ça.
Et l'histoire des premiers pas de l'agriculture en Afrique.
Merci infiniment d'être venu partager ces premiers pas de l'agriculture en Afrique, mais aussi ce riz africain domestiqué depuis 3000 ans au Mali. Merci François Sabot d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault. Merci Yves Gouraud. Et pour continuer chez vous, amis auditeurs, de démêler les vraies et fausses idées de la science, nous avons un ouvrage aujourd'hui à vous faire gagner. Un ouvrage toute cette semaine d'ailleurs. Il est édité à l'occasion de la fête de la science qui démarre le 6 octobre prochain dans toute la France. Avis aux amateurs et à vous tous, fidèles auditeurs à l'esprit libre et curieux. Ça s'appelle 25 vraies et fausses idées en science. Il est pour vous si vous nous le demandez sur notre page Facebook ou par mail. Et je vous signale aussi pour nos amis auditeurs qui sont au Burkina Faso ou au Burundi, la semaine africaine des sciences organisée par le NEF, le Next Einstein Forum, et qui durera dans différents pays d'Afrique jusqu'au mois de décembre. Voilà qui est dit.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Merci à Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette et Sophia Bédard en coulisses. Merci à vous, amis auditeurs, de votre fidélité, de votre curiosité et de votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, prochain journal dans une minute.